vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 13 août 1961, l'édification du mur de Berlin. Le dimanche 13 août 1961, à 9h, les rues ensoleillées de Berlin sont pleines de monde. On s'arrache les journaux. Ceux de la partie occidentale annoncent en gros titre « La ville de Berlin est bloquée ». De l'autre côté de la frontière, le quotidien La Nouvelle Allemagne publie de nombreuses lettres de remerciement à Walter Ulbricht, secrétaire général du Parti socialiste unifié est-allemand, pour les efficaces mesures de salubrité qu'il vient de prendre en établissant un barrage de barbelés entre les deux zones berlinoises. Elles sont signées de paysans, d'ouvriers, de médecins et d'enseignants, et tous se félicitent que le grand nettoyage ait enfin commencé. Très vite, la confusion et la colère laissent place à la violence. Deux jeunes Berlinois de l'Est tentent de sauter la barrière de barbelés au coin de la Bernauer Straße. L'un des deux réussit à s'échapper en courant. L'autre est rattrapé par les Vopos qui l'étendent sur le sol à coups de crosse. À Hermsdorf, dans la partie septentrionale du secteur français, des jeunes gens tailladent les barbelés avec des ciseaux à mesure que les Vopos les déroulent. Cela provoque une bousculade dont profitent un couple et leur enfant pour s'échapper. À 10h30, une centaine de jeunes Berlinois de l'Ouest attaque des miliciens qui plantent des poteaux de béton dans le parc du Tiergarten. Ils sont dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Les barrières constituent une fermeture de sûreté sur une longueur de près de 115 km entourant Berlin-Ouest sur les trois secteurs. Un no man's land est établi et la radio de Berlin-Est prévient les Occidentaux de ne pas s'approcher à plus de 90 mètres des barbelés. Karl Eduard von Schnitzler, le commentateur, précise « Ces mesures sont destinées à vous protéger comme elles protègent vos frères de l'Est contre la soif d'agression des impérialistes de Bonn et de Berlin-Ouest. » À midi, le maire de Berlin, Willy Brandt, demande aux trois commandants alliés de protester énergiquement et de renforcer les patrouilles sur la frontière. Il se rend ensuite au Sénat de Berlin-Ouest pour y tenir un important discours. Il déclare « Lorsque je déclare que les protestations verbales sont insuffisantes, je suis sûr que je parle en votre nom et au nom de tous les Berlinois que je représente. » À 15h52, des Vopos qui patrouillent au coin de la Ackerstraße et de la Bernauer Straße voient une Volkswagen entrer à vive allure dans les barbelés. La barrière résiste et la voiture est prise dans le réseau de fils de fer. Le chauffeur ouvre la portière et se précipite en courant vers la frontière. Ernst Lehmer, le ministre des Affaires pan-germaniques du gouvernement de Bonn, qui se trouve là par hasard, le regarde stupéfait et admiratif. Les Vopos sont abasourdis, ils dégagent la Volkswagen et la ramènent à l'arrière pendant que le conducteur de l'autre côté reçoit les félicitations de ceux qui l'entourent. Il retrouve la liberté dans les rues de Berlin-Ouest. À 16h, la jeune berlinoise de l'Ouest, la jeunesse berlinoise de l'Ouest se regroupe sur la place de Potsdam pour manifester sa sympathie aux Berlinois de l'Est, comme elle l'avait fait en 1953. Ces jeunes gens de bonne humeur se moquent des Vopos qui se tiennent derrière les barbelés, mais soudain, ils sont pris sous de puissants jets d'eau. On entend alors des cris, des slogans « Unité, justice, liberté, liberté pour la zone orientale ». Une demi-heure plus tard, des Berlinois de l'Est envahissent la gare de Friedrichstrasse, réclamant des trains, mais plus un seul ne part. Dans Unter den Linden, un camion de l'armée soviétique entre dans la foule et emporte sur son pare-choc un jeune manifestant qui ne s'est pas écarté assez vite. Il fait ainsi un trajet de près d'un kilomètre sans être blessé, mais cet incident suffit à déchaîner la foule. Les premières pierres du mur sont posées le 15 août 1961. La Karstrasse, rue d'environ 1500 mètres de long qui coupe perpendiculairement la Bernauerstrasse, est définitivement fermée. C'est la première rue barrée par le mur, le point de contrôle de la Friedrichstrasse, Checkpoint Charlie, est envahi de Vopos posant des plaques de ciment. Le lundi suivant, ils confisquent les clés des appartements situés à une centaine de mètres de l'immeuble des ministères dans la Wilhelmstrasse. Le mur s'étend et commence à faire des dégâts et des victimes. Il devient plus massif, plus solide. On y ajoute des mètres et des mètres de barbelés, des fossés et des pièges anti-chars. La porte de Brandebourg est complètement bloquée. Les hommes d'État occidentaux condamnent le mur de la honte, mais il reste debout. Les Berlinois de l'Ouest peuvent crier « Abat le mur !» Il tient fermement. Les haut-parleurs se font de chaque côté une guerre assourdissante, chacun s'efforçant d'étouffer l'autre. Le mur reste debout. Nombreux sont ceux qui tentent de le franchir au péril de leur vie. En 1965, le bilan s'établit ainsi. 52 personnes tuées, dont 46 par les mitraillettes des Vopos. Ils ont ouvert le feu 800 fois et tiré en moyenne 7 projectiles par coup. Ils y ont lancé des bombes lacrymogènes plus de 400 fois. Ils ont construit 159 miradors et 235 tranchées et réduit en béton pour leurs mitrailleuses. C'est le sinistre bilan du mur de Berlin, 4 années seulement après son élévation. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. Ce sont les Rolling Stones qui nous accompagnent durant cette émission, façon de rendre hommage à Charlie Watts, leur batteur, qui vient de nous quitter. Nous écoutons un titre de 1965, I Can't Get No Satisfaction.
I tried and I
écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire, Un jour, trois livres, et c'est Emmanuel qui vous la présente.
Nous allons commencer par L'île du couchant. L'île du couchant de Gilbert Sinoué aux éditions Gallimard. L'île du couchant, c'est le Maghreb. Maghreb qui fut longtemps la proie des envahisseurs, des Phéniciens, des Puniques, des Romains, des Vandales, des Arabes et des Turcs. Dans ce premier tome, une pure merveille, dans le style d'un guerre épée oriental retraçant une épopée qui s'achèvera en 1912, c'est le Maroc qui est à l'honneur. À Meknès, le 10 avril 1672, « Si Dieu m'a donné le royaume, nul ne peut me l'ôter », l'homme qui prononce ces mots s'appelle Moulay Ismaïl. Il vient de monter sur le trône du Maroc et d'accéder au titre suprême du sultan et de commandeur des croyants. Durant son demi-siècle de règne, cet homme hors du commun va réussir l'impossible, unifier son royaume et étendre son territoire. On le surnomme le roi soleil marocain. Autour de lui, l'Europe s'avance et déjà s'annoncent les premières tentatives de ce qu'on appellera plus tard la colonisation. Or, un Français, Casimir Giordano, médecin personnel du sultan, sera le témoin de ce règne fait de déchirements, d'intrigues et de gloire jusqu'au décès du sultan et de son médecin. L'île du couchant de Gilbert Sinoué aux éditions Gallimard. Les promesses de l'innocence d'Éric Le Nabour aux éditions Les Presses de la Cité. À Alger, le 1er novembre 1954, trois jeunes femmes fêtent leur amitié et leurs 20 ans, Clotilde, Judith et Naïma. Mais vite, le monde autour d'elles va les rappeler à sa triste réalité. Elles, si différentes, mais si proches malgré tout, vont voir leur destin brisé, la guerre les séparer. Pourtant, aucune d'entre elles ne veut oublier la promesse qu'elles se sont faite, consolidée par leur amitié de part et d'autre de la Méditerranée. C'est la guerre d'Algérie qui est ainsi retracée dans les yeux de trois jeunes femmes. Les promesses de l'innocence d'Éric Le Nabour aux éditions Presse de la Cité. Le chat, le général et la corneille. Nino Aracivili aux éditions Belfond. Tout débute par une nuit de décembre 1994 durant la première guerre de Tchétchénie. Ce récit de violence, de passion et surtout de culpabilité est inextricablement lié à l'histoire de l'Europe contemporaine. Une troupe des forces armées de la Fédération de Russie est cantonnée dans un petit village musulman du Caucase pour réprimer les séparatistes tchétchènes. Parmi les soldats se trouve Malich, jeune homme épris de littérature qui s'est enrôlé par des espoirs amoureux. Très vite, il fait la connaissance de Noura, une adolescente du village dont la beauté et la fierté le fascinent. Mais la jeune femme ne tarde pas à être arrêtée par d'autres soldats pour un motif fallacieux. Et au cours de cette nuit, Noura sera violée et tuée. Bouleversé par cet événement, le jeune soldat est devenu le général. Un homme au cœur dur et à la poigne de fer, prêt à tout pour dominer les autres. À force d'extorsion et de chantage, il parvient à s'enrichir et à devenir un oligarque multimillionnaire. Son seul objectif est maintenant de protéger sa fille, Ada, et depuis 30 ans, malgré ses efforts pour étouffer l'affaire, les rumeurs les plus sombres continuent de courir au sujet du général, alimentées par la Corneille, un journaliste tenace, est bien décidé à faire la lumière sur cette histoire. Lorsqu'il rencontre le chat, une jeune comédienne qui sent le savoir et le sosie de Noura, le général voit là l'occasion de se venger de ses anciens complices, et cela à la mode russe. Le chat, le général et la corneille de Nino Aracivili aux éditions Belfond.
Merci Emmanuel pour cette très belle chronique littéraire. Nous refermons ainsi cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Et c'est en musique que nous allons nous séparer avec les Rolling Stones. Hommage à Charlie Watts qui vient de nous quitter, le batteur du groupe, et ce depuis sa constitution au début des années 1960. Nous écoutons un titre de 1981, Start Me Up.
Thank you.